Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jonas Haddad, vice-président de la région Normandie, porte-parole des Républicains. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, Édouard Philippe a tenu dimanche son premier meeting de campagne. Il espère s'imposer comme le candidat naturel de la droite, bien qu'il ait été le premier ministre d'Emmanuel Macron. Il a tenu des propos très fermes sur l'Algérie, mais aussi sur le narcotrafic, des thèmes qui sont aussi ceux de Bruno Retailleau. Face à Édouard Philippe, comment le candidat des Républicains compte-t-il convaincre les Français qu'il est le mieux placé à droite pour empêcher un duel Bardella-Mélenchon?
Écoutez, il se trouve que Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a eu des positions qui étaient très claires, notamment concernant l'Algérie et concernant le narcotrafic. C'est-à-dire qu'il y avait deux tendances à l'époque où Bruno Retailleau était au gouvernement, une tendance plus angéliste, je dirais, puis une autre tendance plus réaliste qui était la sienne. Voilà. Et donc, ce qu'il essaye de faire, c'est de sortir de cet angélisme pour expliquer la réalité des enjeux qu'il y a et qu'il n'a pas pu mettre en œuvre pleinement lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Quant à Édouard Philippe, ça fait maintenant plusieurs années qu'il n'est plus au gouvernement. Et donc, peut-être que lui aussi, il fait ce constat qu'à l'époque et aujourd'hui, le nécessaire n'était pas fait. Si vous voulez, c'est plutôt bon signe si il commence à avoir des visions convergentes sur le diagnostic et sur l'état du pays. Après, peut-être que ce qui sera différent, ce sera les réponses à y apporter.
Alors, Bruno Retailleau veut être le président de l'Ordre de la Justice et de la Fierté Française. Il veut boucler son programme avant l'été, même si quelques mesures ont déjà été annoncées, on y reviendra. Comment va s'articuler ce programme? Sur quels grands piliers sera-t-il construit?
Alors, le premier grand pilier, il est assez naturel, vous l'avez évoqué, c'est le rétablissement de l'ordre. Parce que dans un pays dans lequel il n'y a pas d'autorité, le pays est bloqué. Les gens ne respectent pas les règles, il n'y a pas de vie en communauté. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la libération économique. Il a parlé d'en finir avec le social-étatisme, et on voit bien que dans un pays qui est le plus fiscalisé des pays développés de l'OCDE, qu'il y a un record de dépenses publiques, beaucoup plus que tous les autres pays en Europe, et qu'il y a une redistribution qui aujourd'hui n'est pas équitable, il faut qu'on libère l'économie parce que sinon notre pays va continuer à s'enfoncer. Et malheureusement, cet enfoncement, il est très négatif pour les prochaines générations. Vous savez, il y a la figure bien connue de Nicolas qui paye. Vous savez, c'est ce jeune actif qui paye en permanence pour les autres. Et en fait, un certain nombre d'actifs, et notamment de jeunes, ont l'impression qu'aujourd'hui, ils doivent payer pour un système qui ne marche plus. On arrose le sable, si j'ose le dire. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Enfin, le troisième point, c'est ce qu'il appelait la fierté française, c'est-à-dire la fierté de pouvoir avoir des gens qui réussissent, des entrepreneurs, des sportifs, des responsables associatifs. En gros, montrer tout ce que la France fait de bien, là où de nombreuses personnes veulent montrer et pointer du doigt ce qu'elle fait mal. Voilà, c'est les trois grands piliers de ce qui sera son programme dans le cadre de cette élection présidentielle.
Sur la fierté française, c'est une bataille culturelle à mener aussi. On voit que, par exemple, les Américains sont très fiers de leur grand patron.
Alors, en fait, c'est la fierté d'avoir peut-être des grands, mais aussi des petits patrons. Vous savez, depuis des années, on a mis tout le monde dans le même sac et on disait « Oh, les patrons s'enrichissent !» Non, il n'y a pas de... Peu de grands patrons. La France, c'est plutôt un tissu qui est constitué de petits patrons. Et d'ailleurs, tous les gens qui nous écoutent sont bien éloignés de ces considérations politiques. Aujourd'hui, vous avez plus d'un million d'auto-entrepreneurs, donc des gens qui vivent de leur propre activité. Et en fait, c'était vraiment une vision très ringarde que de considérer qu'il ne fallait pas être fier de ceux qui entreprennent, de ceux qui créent, de ceux qui innovent. Donc en fait, ce que nous, on veut dire, c'est que la France est forte de ses talents et que si on continue à tabasser ses talents fiscalement, d'un point de vue normatif, et en tout cas de ne pas les valoriser, eh bien, on a un risque que ces gens-là baissent les bras et disent « Bon, je vais me contenter de faire mon job ou un petit peu moins. » Et ce qui fait d'ailleurs que dans les pays d'Europe, nous sommes en France, malheureusement, le pays dans lequel il y a le moins d'heures travaillées sur une année. Donc ça rend les choses très difficiles parce que la machine est en train d'être grippée et qu'il faut qu'on redonne la fierté en France de ceux qui entreprennent, qui créent et qui innovent.
Alors Jonas Haddad, Bruno Retailleau a fait des propositions très concrètes sur le pouvoir d'achat. Il promet de dégager un 13e mois de salaire grâce à ses propositions sur le travail. Comment parvenir à une telle hausse de salaire ?
Alors d'abord en assumant de baisser les charges qui pèsent sur les employeurs pour faire en sorte que lorsque aujourd'hui on est dans ce système complètement fou, c'est que lorsque un employeur vous donne une somme, en réalité, il paye deux fois cette somme. Donc s'il vous donne le SMIC, il paye deux fois le SMIC. Parce qu'il doit payer aussi des charges patronales et vous, vous payez des charges salariales. Donc ce que nous, on veut faire, c'est baisser les charges des deux côtés pour faire en sorte que demain, les gens puissent avoir un brut qui soit plus près du net. Et donc comme ça, on va venir dégager en moyenne un 13e mois. Deuxième proposition, c'est de faire en sorte que le travail paye toujours plus que l'assistanat. Parce qu'il y a des gens qui bossent et qui disent « mais je comprends pas, moi finalement je touche la même chose qu'une personne qui ne se lève pas le matin. » Ou peu ou moins, peu ou prou. Ce que nous proposons, c'est d'avoir, comme vous avez demain un numéro fiscal, bah demain vous aurez un numéro social. Ce numéro social, il donnera une limite. Vous ne pouvez pas toucher plus de 70% du montant du SMIC. Toutes les aides seront mises à l'intérieur, quelles que soient les aides que vous recevez du département, de l'État, etc. Et comme au final, il est toujours préférable de travailler, eh bien ça va inciter les gens à retourner au travail. Et donc qui dit inciter les gens à retourner au travail, c'est que vous remettez en marche la machine économique qui est aujourd'hui bloquée. Je rappelle à nos auditeurs qu'aujourd'hui, la France est un pays qui a une croissance de 0%. Voilà, c'est le dernier chiffre. Nous faisons 0% de croissance, donc nous sommes matériellement au bord d'une récession. Et donc il faut qu'on relance la machine économique avec des gens qui travaillent davantage que ceux qui sont assistés.
Mais Jonas Haddad, quel serait l'impact d'une baisse des cotisations sociales sur la protection sociale ? Est-ce que ça remet en question tous les acquis, notamment du Conseil national de la Résistance ?
Ah, pas du tout. En fait, c'est simplement une baisse de cet impôt qui est aujourd'hui perçu. Et nous, notre pari, qui a été vérifié dans tous les pays qui ont mis en place cela, c'est que lorsque vous remettez plus de gens au travail et que vous baissez les charges sur ceux qui sont déjà au travail, eh bien, c'est très simple. La consommation repart. Si à la fin du mois, vous touchez plus d'argent, ben, vous allez dépenser davantage. Et donc, comme vous allez dépenser davantage, eh bien, vous allez faire entrer plus de TVA dans les caisses de l'État, et donc l'État va pouvoir continuer à livrer les prestations sociales. Mais attention, dans la limite de 70% pour que le travail paye toujours plus que celui qui ne bosse pas.
Et un demandeur d'emploi ne pourra pas avoir plus de 70% du SMIC, hein ?
Alors le demandeur d'emploi, ça dépendra du temps dans lequel il sera en demande d'emploi. C'est certain qu'à partir de... Si vous êtes, par exemple, en transition professionnelle parce que vous venez de sortir d'un emploi, il faudra regarder ça avec plus de bienveillance que si ça fait 6 mois que vous êtes au chômage. D'ailleurs, les économistes le montrent. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des gens qui sont trop longtemps au chômage. Pourquoi ? Parce que quand vous dépassez plusieurs mois au chômage, vous perdez le réflexe du boulot. Vous reprenez des habitudes qui ne sont pas des habitudes bonnes. Et puis, à un moment, vous baissez les bras, vous dites oh, j'y arriverai pas. Surtout, par exemple, vous voyez, quand les gens ont dépassé, je sais pas, 55 ans, etc., ils disent bon, ben voilà, ça fait 6 mois que je suis au chômage, je vais pas retrouver. Non, l'idée, c'est de, les premiers mois, d'être peut-être un peu plus cool, je dirais, pour le dire comme ça. Puis après, de dire maintenant, c'est le moment de retourner au travail.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure des auto-entrepreneurs, Jonas Haddad. Les créateurs d'entreprises se plaignent souvent des normes, des tracasseries administratives. David Lisnard a d'ailleurs fait une vidéo avec une broyeuse de documents. De nombreux jeunes aimeraient créer leur entreprise plutôt que d'être salariés.
Si vous voulez, aujourd'hui, il ne faut pas parler du monde du travail comme on en parlait il y a 40 ans. Aujourd'hui, le rêve des jeunes, c'est pas d'avoir un CDI dans la même boîte toute leur vie. Le rêve des jeunes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur quartier, et quel que soit le lieu d'où viennent leurs parents ou d'où eux-mêmes viennent, c'est de créer leur boîte, et c'est plus d'être bloqué dans un seul emploi. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, moi, ce qui m'attristerait, c'est que des jeunes se disent « Bon, bah, finalement, la France ne veut pas de mon énergie, ne veut pas de mon talent, et donc je vais aller voir ailleurs. » Dans chaque famille, aujourd'hui, on entend « Ah bah tiens, finalement, est-ce que mon fils ou ma fille va faire sa vie en France ? Est-ce qu'elle va pas partir aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, en Angleterre, etc. ?» Que vont chercher les gens là-bas ? Ils vont chercher plus de liberté, plus d'encouragement à l'entrepreneuriat, plus de simplicité administrative. Donc si nous ne prenons pas ce virage-là, bien malheureusement, on va décourager tous ceux qui veulent entreprendre dans notre pays. Et chez les jeunes, ils sont très nombreux.
Et en même temps, les jeunes ne veulent pas être exploités, être auto-entrepreneurs. Parfois, c'est travailler pour des entreprises ubérisées.
Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut distinguer le travail dans lequel vous êtes dépendant économiquement d'un seul gros client, ce qu'on appelle le travail des plateformes, avec une vraie indépendance. Vous savez, c'est comme dans la franchise. Dans les réseaux de franchise, pour citer un nom, hein, par exemple, si vous ouvrez demain un McDonald's ou un Burger King, j'en sais rien, vous êtes bien évidemment un franchisé de Burger King ou McDonald's, mais si demain vous voulez changer le restaurant et l'appeler avec un autre nom, vous avez le droit de le faire parce que vous êtes un indépendant. Ça, c'est des vrais indépendants. Mais si vous êtes dépendant et que vous n'avez qu'un seul client, à savoir Uber ou Deliveroo, eh bien ça, ce n'est pas un travail qui est pour moi indépendant. Et donc il faut réinventer notre droit du travail, notre droit de l'activité. Regardez, vous me parlez tout à l'heure du Conseil national de la Résistance. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, notre monde du travail n'a plus rien à voir avec le Conseil national de la Résistance. Nous ne sommes plus après une Deuxième Guerre mondiale où il fallait reconstruire. Nous avons un pays qui est moins industrialisé. Donc il faut aussi qu'on adapte notre encadrement pour qu'effectivement, il n'y a pas de dépendance trop forte à des plateformes qui sont monopolistiques.
Dernière question, Jonas Haddad. Bruno Retailleau est concurrencé non seulement par Édouard Philippe, mais aussi par Jordan Bardella. Comment interprétez-vous les bons sondages du président du RN pour le premier tour de l'élection présidentielle à un an de cette échéance ?
J'ai l'impression qu'on est encore à la surface des choses. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens s'intéressent au profil, à la communication, à la forme, parfois même à une forme de pipolisation. Et donc, on n'est pas encore rentré dans le détail, dans le fait de savoir est-ce que je suis prêt, moi, électeur, à donner les clés de la Maison France à quelqu'un. Et je suis convaincu que lorsque ce temps va arriver, eh bien, les gens vont regarder qui est le plus solide, qui a le plus la capacité à diriger le pays dans un moment qui est assez particulier. C'est un moment dans lequel il y a un retour des empires. C'est-à-dire que vous devez avoir un président français demain qui est en capacité de négocier, parfois même de tenir tête à Poutine, à Donald Trump, à Xi Jinping, à Erdogan, par exemple au Moyen-Orient, à Ben Salman, à Netanyahou. Et donc si vous voulez, vous ne pouvez pas vous improviser président de la République sans avoir la densité nécessaire. Donc moi, je pense que la différence se fera sur la densité et sur la gravité. Bruno Retailleau l'a dit assez justement. Il a dit, moi, je ne vais pas à l'élection présidentielle par envie personnelle. Ce n'est pas une lubie, c'est un devoir pour mon pays. Et moi, je pense que là, on voit une façon différente d'exercer le pouvoir dans une France qui n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 20 ans également, dans laquelle on voyait que, bien évidemment, il y avait déjà des défis. Il n'y avait pas des défis comme la guerre, ou des défis comme le relèvement économique dont on a besoin.
Merci Jonas Haddad. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région Normandie, conseiller municipal à Bois-Guillaume et porte-parole des Républicains. Merci.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.